Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue à la Voix des Arts sur Radio Libre Périgord pour poursuivre avec moi ce qui a été amorcé les deux émissions précédentes et qui concerne l'art de notre époque. Alors nous étions restés à l'art conceptuel avec l'influence de Marcel Duchamp et notamment avec ses ready-made, le tout prêt ou tout fait, qui n'est qu'un objet quelconque déplacé de son contexte habituel pour être immergé dans un contexte artistique. Je vous ai présenté un artiste célèbre contemporain, adepte du ready-made nommé Bertrand Lavier. Je vous ai expliqué pourquoi le fait d'affirmer que tout est art et qu'il n'existe aucune frontière entre l'art et la vie avait pu influencer l'art contemporain d'aujourd'hui avec concrétisation parfois improbable. Aussi, de ce postulat découle le fait qu'il ne suffit pas de déplacer un objet du quotidien et le poser dans un contexte artistique pour nous convaincre qu'il s'agit d'une œuvre d'art, même si d'un point de vue philosophique, cette affirmation tient la route. Et je vous ai donné des explications sur lesquelles vous avez eu, je pense, le loisir de réfléchir. Alors le minimalisme a également imposé sa marque. Avec le minimalisme, le rien, c'est quelque chose. Alors Malevitch avait impulsé le concept au début du XXe siècle avec son carré noir sur fond blanc, puis blanc sur fond blanc, et ce qui fait qu'il a aussi ouvert les portes pour que d'autres artistes s'y engouffrent et nous présentent leur monochrome, c'est-à-dire des toiles composées d'une seule couleur. Et cet ensemble est généralement accompagné et soutenu par une explication de l'artiste pour nous faire part des pensées et des réflexions qui ont motivé cette réalisation. Alors si vous vous souvenez en minimalisme, il suffit de supprimer au maximum tout ce qui peut l'être. Supprimer le savoir-faire, supprimer l'émotion, supprimer la sensation, supprimer la forme, supprimer la couleur, supprimer les idées, sauf l'idée unique qui consiste à réduire au maximum, et donc gardons l'idée qu'il faut supprimer un maximum jusqu'à tout supprimer, même l'objet lui-même si possible, et peut-être réussir à vous laisser seul face à vous-même et votre perplexité. Bon, tant qu'on n'essaye pas de vous supprimer, vous aussi. Bon, alors que reste-t-il ? Eh bien, vous, déjà, c'est pas mal, on va dire ça, face au rien, tout au plus face à un nom d'artiste, une trace élevée au rang d'œuvre d'art, un art qui n'a d'art que le nom, un art qui néanmoins a investi l'espace et qui invite le public à cheminer et peut-être se perdre dans un lieu destiné au rien pour qu'il expérimente son rapport au rien, au vide, au néant. Néanmoins, le minimalisme est un courant qui a fait recette malgré tout dans les années 70 et dont s'inspirent les artistes encore aujourd'hui. Même en musique, l'américain musicien John Cage a réussi à supprimer la musique en faisant jouer, si je puis dire, 4 minutes 33 de silence. Et je m'en voudrais d'oublier les 3 minutes dans les 4 minutes 33. Il est vrai que lorsque je vous ai présenté le minimalisme, j'ai manqué de courage pour vous faire écouter, entre guillemets, 4 minutes 33 de silence. Cependant, l'action de John Cage a été considérée à son époque comme révolutionnaire. Le mouvement support-surface a aussi apporté sa contribution en décidant de n'accorder d'intérêt qu'au médium et au support, comme les châssis, les toiles, etc. Et donc là, il suffit de confronter matériaux et matériel entre eux et décider qu'il s'agit d'art. Alors je vous ai aussi expliqué que le concept est l'art de l'idée et donc de la pensée et que l'une des grandes préoccupations des artistes est d'interroger. Alors je vais essayer de vous donner encore quelques exemples. Vous avez un artiste conceptuel minimaliste poète français nommé Claude Ruteau, dont le travail consiste à s'interroger sur la fonction même d'une toile dans un environnement. Alors, en prenant compte des rapports existants entre la toile, le mur, l'espace, il introduit ainsi des toiles de même couleur que les murs, des châssis en forme de cercle et présente des toiles neutres sur le sol. Alors, je rappelle que l'art conceptuel prit naissance surtout aux États-Unis dans les années 60-70 avec, entre autres, Robert Morris, Sol Levitt, Donald Judd, Joseph Kossuth. Alors, ce sont des artistes qui ont eu la côte de leur vivant et dont les œuvres atteignent des prix parfois faramineux. Pour information, une œuvre de Donald Judd, mise aux enchères chez Christie's, a été adjugée en 2007 à plus de 8 millions de dollars. Et cette œuvre est composée d'acier et de plexiglas bleu. En ce qui concerne Robert Morris, lui, s'interroge sur la matière et en même temps sur la forme, ce qu'il nomme l'antiforme. Et voilà ce que j'ai lu sur le site du Centre Georges Pompidou de Paris. Robert Morris critique la sculpture occidentale qui, selon lui, a toujours soumis la matière à un ordre qui lui est extérieur, sans jamais la laisser s'organiser elle-même. En somme, on a toujours considéré le travail de la matière comme moulage ou comme élaboration d'une forme plaquée de l'extérieur. Et Robert Morris propose au contraire de valoriser la matière, de la montrer pour ce qu'elle est, de profiter de ses imperfections et même de suivre sa tendance à l'entropie, c'est-à-dire la dégradation naturelle et l'autodestruction. Son travail, en montrant la matière à un moment de sa chute, réalise l'ambition paradoxale de pérenniser l'éphémère. Donc voilà ce que j'ai lu sur Robert Morris, et c'est pourquoi il crée des sculptures molles, souvent en tissu, en feutre, et qu'il laisse évoluer, puisque apparemment le véritable sculpteur, c'est le matériau lui-même, et que l'artiste n'est là que pour collaborer afin que la forme s'organise d'elle-même. Donc, il développe toute une théorie que vont s'approprier d'autres artistes pour leur réalisation. Un autre artiste américain nommé Dan Graham, qui bénéficie d'une bonne cote puisqu'il vend des œuvres entre 20 000 et 50 000 euros, lui interroge, et je lis ce que j'ai lu sur Internet, il interroge les relations entre l'espace privé et l'espace public, ainsi que tout ce qui touche à la perception et à la place du spectateur dans l'art et la société. Alors, il crée entre autres des installations miroirs, qui sont des espaces géométriques, qui invitent le public à la déambulation en le mettant face à sa propre image ou à celle d'un autre visiteur qui apparaît derrière une vitre. Et il dit « Mon travail part d'une idée simple, celle du rapport au monde qui s'établit dans l'enfance. » Regarder le monde, prendre conscience de soi, avoir conscience des autres. J'invite le spectateur à redécouvrir cette expérience. Alors, l'Américain Lawrence Weiner, qui est une figure centrale dans l'art conceptuel, s'interroge sur le langage en tant que matériau dans ses créations. Et c'est tout un processus intellectuel qui le conduit à conclure que l'énoncé de l'œuvre suffit à ce que l'œuvre existe. Ce qui est en effet très pratique en évitant beaucoup de travail, avec en plus quelques bénéfices concrets. Alors, je vais vous lire la formule qu'il propose et qu'il a concoctée suite à la dégradation de l'une de ses réalisations. Premièrement, l'artiste peut construire la pièce. Deuxièmement, la pièce peut être fabriquée, donc par un tiers. Troisièmement, la pièce n'a pas besoin d'être réalisée. Et chacune de ces éventualités se valent et étant conforme à l'intention de l'artiste, le choix dépend de la décision du destinataire lors de la réception. Alors, si vous avez compris le sens de cette formule, le destinataire, c'est-à-dire le public, est engagé à accepter de recevoir le langage comme une œuvre plastique. Et pour compléter, on peut dire que le spectateur est invité à concevoir l'œuvre à partir du langage d'un énoncé au lieu de la voir. Alors, dans les années 70, il produit des installations murales composées de mots peints sur les murs qui décrivent des sculptures potentiellement réalisables. Et je vais vous lire encore une citation de Laurence Weiner. Il dit « Je m'intéresse davantage à l'idée du matériau qu'au matériau lui-même. Mes propres œuvres ne donnent jamais aucune indication. Elles ne se présentent que comme un fait accompli. » Alors, j'ai découvert un autre artiste pour qui les mots et le langage ont fait la renommée. Il s'agit du peintre américain Christopher Wool, qui propose des toiles sur lesquelles sont positionnés de manière spécifique des mots ou groupes de mots. Et sa cote montante lui a permis de vendre en 2004 des toiles jusqu'à 70 000 dollars et une année plus tard négociées à 500 000 dollars. Bon, c'est ce que j'ai lu dans le journal Les Échos, dans un article sur le marché de l'art contemporain. Alors, pour parler de la cote de certains artistes conceptuels ou provocateurs en conformité avec l'esprit de notre époque, je citerai l'Italien Maurizio Catlan, qui lui a défrayé la chronique avec sa sculpture du pape frappé par une météorite. Et cette sculpture a été adjugée 3 millions de dollars en 2004. Bon, il est vrai que l'un des sujets intéressants serait d'aborder les rapports entre l'art et l'argent. Il est vrai aussi que dans notre monde de contradictions et de démesures, il est relativement facile de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de l'extrême dénuement de certains artistes à l'opulence des autres, quel que soit le talent ou l'investissement de chacun dans son domaine artistique. Alors, pour en revenir aux affirmations qui ont contribué à servir l'art conceptuel, l'une d'elles, qui à mon avis a dû être prise à la lettre par les artistes modernes, c'est celle de Joseph Buys, dont je vous ai parlé au cours de l'émission numéro 8. Alors, Joseph Buys est un personnage complexe des avant-gardes de la Seconde Guerre mondiale. Il avance des théories que je trouve d'ailleurs intéressantes et qu'il matérialise de manière insolite, extravagante, hein, comme ça l'est en art, mais c'est aussi dans l'air du temps. Et c'est lui qui a dit que tout homme, tout être humain est un artiste. Et par rapport à cela, il a expliqué que tout homme est créateur dans son domaine d'activité, dans le sens où, par exemple, une infirmière, un balayeur, peut apporter dans son travail, quel qu'il soit, une qualité, une dimension personnelle pour un plus créatif. Et pour ma part, je suis tout à fait d'accord, autant d'un point de vue philosophique que pratique et concret, et c'est d'ailleurs ce qui distingue l'homme du robot. Par contre, cette affirmation a été prise au premier degré pour investir le monde de l'art. Je dis encore cela par rapport à ce que l'on peut parfois et aussi constater sur le terrain, puisqu'il semble avéré qu'est artiste celui qui dit qu'il l'est. Il suffit de l'affirmer grâce à un bon plan marketing, accompagné d'un grand battage médiatique, parfois avec un grand goût de la mise en scène, voire d'une provocation pas toujours à propos, le tout avalisé par les pouvoirs publics en place, État et finances combinés. Alors pourquoi est-ce permis ? Ce n'est certainement pas moi qui vais vous donner la réponse, mais cela contribue certainement à décrédibiliser le monde de l'art et par conséquent les gens, artistes sérieux, qui prennent à cœur ce qu'ils font. Alors, j'oublie Andy Warhol, le pape du pop art, qui a fait honneur à la société de consommation avec ses séries d'objets et d'images identiques sorties du quotidien. Nous revenons à l'argent et à la relation qu'entretiennent certains artistes avec l'argent. Et je vais vous lire une citation d'Andy Warhol que j'ai relevée et découpée dans un journal. Et là, sans retenir le nom du journal, ce qui arrive parfois, car j'ai une petite manie, je découpe, photocopie et relève dans différents magazines ou journaux ce qui m'apparaît comme intéressant ou pertinent. Alors voilà ce qu'Andy Warhol aurait dit de lui. « Je suis un artiste commercial. Et si l'art n'a pas d'autre mission que de permettre à certains d'être célèbres et de gagner de l'argent, alors n'importe quel employé de banque voudra, entre guillemets, se réaliser soi-même et démissionner pour se consacrer à sa passion. Bon, bah, je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Bon, en tout cas, Warhol a innové la série avec l'image sérigraphiée qui banalise, par exemple, sa Marilyn Monroe, hein, qui appartient à tout le monde parce qu'il l'a vulgarisée. Et en proposant ces séries, eh bien, il a inventé par la même occasion la marque Warhol. Société de consommation oblige, puisque l'art, comme tout produit de consommation, se consomme, et cela pour le plus grand bonheur du consommateur qui peut profiter de tout. Alors cet art issu du mécanique, du répétitif, du banal, est en quelque sorte le prêt-à-porter de l'art qui va à tout le monde. Ce qui n'empêche pas les artistes pop art, et notamment Andy Warhol, dont le nom est une marque appréciée, d'acquérir fortune et célébrité. Il fait ainsi honneur à la société capitaliste grâce à ses bons et loyaux services rendus à la société de consommation. Et en plus, la machine à sérigraphier a exécuté la totalité, quasi-totalité du travail. Alors que dire de plus ? Ben, c'est la félicité pour tous, hein, ceux qui consomment l'art, de ceux qui empochent de l'argent pour cela. À vous de voir si vous l'êtes là, à la place où vous vous trouvez, et si ce que l'on vous propose vous convient. Alors en parlant de marque, je constate que certains artistes contemporains fonctionnent un peu comme une marque. La répétition leur apporte renommée et subvention. Par exemple, il suffit de regarder les lignes blanches et noires pour penser à Buren. Est-ce l'effet d'un bon marketing ? En tout cas, ça marche. Et je vous lis une citation de Buren pour justifier ses réalisations. Il dit « Je n'expose pas des bandes rayées, mais des bandes rayées dans un certain contexte. » Et il ajoute par rapport à ces bandes rayées dans le contexte donné « Si on veut voir avant de se faire le jugement qui peut être négatif ou positif, il faut bouger. Donc, effectivement, il faut d'une certaine façon, se perdre dans l'espace, car pour moi, tout lieu, tous les mètres carrés de cet espace sont aussi intéressants les uns que les autres, parce qu'ils ne donnent pas la même solution ou ils ne donnent pas la même interrogation. Donc, effectivement, le dispositif est fait pour bouger. Ben, bougez si vous voulez, et puis vous verrez bien, et interrogez-vous comme cela vous les préconisez. Alors, l'un des adeptes du pop art revisité est l'américain Jeff Koons, considéré comme un artiste néo-pop. Et je défie quiconque de ne pas connaître Jeff Koons. C'est pratiquement impossible, tant sa notoriété a débordé du monde de l'art contemporain, tant il est vrai que ses millions au service de réalisations démesurées l'ont poussé sur le devant de la scène internationale. Et c'est quelqu'un qui a su imposer sa légitimité dans le monde de l'art et qui en est devenu une personnalité incontournable. Alors, qui est Jeff Koons ? Outre le fait qu'il est l'artiste vivant le plus cher du monde, apparemment, il a débuté dans la vie comme trader pendant quelques années, qui aide sans doute. En parallèle, il s'intéresse à l'art, fréquente une école des beaux-arts. Il dit devoir ce goût artistique à son père, qui était décorateur d'intérieur. Petit à petit, il évolue, s'intéresse au ready-made de Duchamp, admire Warhol et commence à exposer. Alors, qu'a donc réalisé Jeff Koons en art ? Alors, l'une des œuvres majeures est Inflatable Rabbit, réalisée en 1986, qui est un énorme lapin en inox inspiré d'un jouet gonflable et qui a été acquis depuis par le Musée d'art contemporain de Chicago. De son mariage avec la Cicciolina, il crée des œuvres provocatrices, où il s'expose nu avec elle, ce qui contribue à accentuer sa célébrité. Et si vous vous souvenez de la Cicciolina, c'est une actrice à la plastique monumentale. Elle partage avec Jeff Koons le goût des ballons, puisque c'est à grands coups de gonflettes, notamment de la bouche et des seins, qu'elle s'est mise au diapason et aux idéaux de son époux. Alors, en tant qu'adepte du pop art et de la culture populaire, par exemple, Kuntz réalise son Ballon Dog, le chien ballon. L'effet produit est le même que si vous assembliez des ballons gonflables entre eux de manière à composer une figure qui peut ressembler à un chien, sauf que ce Ballon Dog est une œuvre monumentale de plusieurs tonnes, réalisée en acier avec une grande précision, jusqu'à imiter le moindre détail de véritables ballons en plastique gonflé. Et 5 Ballon Dog ont été réalisés en couleur de 1990 à 1994. Et le coût de ces réalisations sont monstrueuses également, mais elles font des adeptes auprès des milliardaires et des nouveaux riches. En 2013, l'un de ces Ballon Dog aurait été adjugé chez Christie's 58,4 millions de dollars. Alors pour justifier ces réalisations, je vous lis ce que j'ai lu et qu'il aurait dit. L'art doit être accessible à tous. Le monde de l'art utilise le goût comme forme de ségrégation. J'essaye de faire un art que tout le monde puisse aimer, que les gens les plus simples n'imaginent pas ne pas pouvoir comprendre. Je viens d'un milieu très provincial. C'est ce qui s'appelle simplifier l'art à l'extrême pour se mettre à la portée d'une masse de gens habitués en guise d'art à se contenter de joujoux pour enfants et je suis gentille. Et il le fait en utilisant des moyens matériels et financiers à l'opposé tout aussi extrême. Alors qui en tire profit? Là je parle en monnaie sonnante et trébuchante. Eh bien des spéculateurs au sein de systèmes financiers bien orchestrés dont Jeff Koons lui-même fait partie malgré ses bonnes intentions affichées de faire plaisir à tout le monde en imposant à grand renfort de millions son art censé plaire à tous. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que pour réaliser ces sculptures, Jeff Koons produit industriellement et emploie quelques dizaines de personnes qui font le travail pour lui. Bon, au moins il a le mérite peut-être de résorber une partie du chômage. La France fut également honorée de sa présence puisqu'elle a mis à sa disposition le palais de Versailles en 2008 et Jeff Koons a pu étaler sa réussite en inondant les lieux de ses réalisations. Alors si vous avez suivi l'événement, vous avez pu admirer son homard géant en aluminium, entre autres objets. Son ballon de dog magenta vous accueillait à l'entrée. Des aspirateurs ouverts à faire pâlir de jalousie la ménagère moderne obsédée par la poussière en tant que ready-made était exposée et enchâssée dans une vitrine en plexiglas sous le nom de New Hoover Convertible. Devant le portrait de Marie-Antoinette, qui si elle voyait cela en perdrait la tête une seconde fois, et d'autres pièces que j'ai découvertes en suivant l'actualité et en me servant d'Internet. Et de son exposition à Versailles, Jeff Koons dit « C'est vraiment un sommet de ma vie, voir mes œuvres dans les jardins et dans différentes pièces est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment extrêmement fort parce que le dialogue qui s'établit ici semble naturel. Avec toute l'histoire de Versailles et tout l'aspect esthétique qui se crée des échanges, des interactions, des connexions multiples sous de nombreux angles, à commencer par celui concernant aussi bien le contrôle que l'absence totale de contrôle. » Là, je ne comprends pas grand-chose, mais bon, ce n'est pas grave. Je vous le lis, vous verrez vous-même. Enfin bon, je ne parle pas pour ceux dont le simple fait d'avoir un nom, c'est-à-dire être une célébrité, permet de passer leurs caprices dans le domaine choisi, puisque le nom, gage de valeur, se transforme en passe-partout. Et en général, le domaine artistique, notamment plastique, est un domaine de prédilection, car celui-ci accorde sa place au flou, au jeu, à la folie autorisée, à l'extravagant, à l'immonde même, quand il n'est pas considéré comme du superflu ou du superficiel. Bon, c'est aussi un domaine, en outre, qui, dans certaines situations, demande peu en engagement personnel et donne beaucoup en compensation. Mais l'inverse existe également et je sais de quoi je parle. Alors, je vous ai donné quelques exemples succincts d'artistes représentatifs. La liste est longue et même très longue. et je suis bien consciente de la petite goutte d'eau que constitue ma présentation de l'art actuel. Mais je vais terminer ma présentation sur un dernier exemple de performance artistique proposé dans le cadre du Grand Palais de Paris en 2012. Il s'agit de l'artiste contemporain thaïlandais Rirkrit Thiravanija qui a présenté Soup No Soup. Alors ce projet consistait à accueillir pendant 12 heures d'affilée le public afin de lui proposer de partager une soupe préparée par l'artiste et son équipe. Alors j'avais entendu un reportage à l'époque aux actualités télévisées et là je vous lis ce qui est écrit sur le site du Grand Palais. Généreux mais modeste, collectif mais singulier, Soup No Soup se veut un grand rassemblement où chacun pourra vivre une expérience transactionnelle, immatérielle, basée sur l'échange, la rencontre et la générosité. Et de spectateur passif, le visiteur deviendra participant actif dans une œuvre en construction. Je lis encore par rapport aux actions de cet artiste contemporain. De telles actions peuvent être lues comme la production d'espaces littéraux et interpersonnels où les visiteurs créent une sorte d'architecture de l'hospitalité et de sculpture sociale. Que c'est bien dit. Quitte à servir de la soupe artistique, autant servir celle-là qui aurait eu le mérite, et j'espère que c'est le cas, de nourrir quelques pauvres et SDF de la capitale venus chercher de quoi se remplir le ventre et se réconforter. En général, les Restos du Cœur connaissent. Hein. D'ailleurs, il y a peu de temps, je crois qu'une soupe a été partagée sans endosser évidemment l'appellation de performance artistique. Mais il y a eu un grand partage comme ça. J'ai entendu ça à la radio il n'y a pas très longtemps. Justement pour nourrir des gens et pour partager, tout simplement. Alors ceci dit, et pour finir, j'ajouterai que le domaine artistique des arts dits plastiques, contemporains, est devenu en quelque sorte, et à mon avis, le sac fourre-tout du monde moderne d'aujourd'hui. On y met de tout, et comme pour le chapeau du magicien, ce qui en sort est tout. Et aussi tout et n'importe quoi. D'un accessoire à l'autre, le monde de l'art déroute, en s'accessoirisant, justement. Et souvent, il se décrédibilise, même aux yeux d'artistes qui n'osent plus se présenter comme tels. Et sous prétexte de mettre à portée de tous, par une surestimation du banal et du médiocre, impropre à élever l'esprit des gens, certains jonglent avec les millions. Bon, on ne peut pas non plus nier que l'art est devenu joujou de riches, de millionnaires et de milliardaires qui retrouvent leur enfance en s'amusant comme des petits fous. Alors, ainsi font-ils la pluie et le beau temps parce que détenteurs du pouvoir financier. Et ils entraînent dans leur sillage des états complaisants ou peut-être intéressés et une foultitude de gens attirés par l'argent, les paillettes ou je ne sais quel autre dérivatif désopilant. Aussi, pas étonnant que plus personne n'y comprenne rien, peut-être parce qu'il n'y a plus grand-chose à comprendre quand la confusion et les débordements dominent. Encore une fois, le monde de l'art reflète notre monde avec bon et le mauvais, le pire comme le meilleur, l'irrationnel et l'incohérent côtoient le raisonnable et la logique, certains recueillent des bénéfices disproportionnés par rapport à ce qu'ils apportent, et d'autres le contraire, ou sont écrasés par des systèmes. Alors il est vrai que j'ai conçu cette émission pour vous faire comprendre l'art, mais que face à l'art d'aujourd'hui, il y a des évidences. Mais j'invite chacun à se forger son propre avis. Je pense vous avoir apporté suffisamment de grains à moudre pour le faire, si je puis m'exprimer ainsi. Et avant d'aborder d'autres émissions, je vous souhaite déjà une bonne digestion de ce que je vous ai proposé. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, en attendant le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. C'était La Voix des Arts sur Radio Libre Périgord, animée par Christine Darboux.